le conférencier d'aujourd'hui est Bruno Berton. Il est né en 1961. Il est centralien, l'école centrale de Paris, option économie, un DEA de macroéconomie. Il a un MBA de l'INSEAD. Son parcours, il a été chargé de mission au commissariat général du plan, chargé de recherche au laboratoire d'économie de l'école centrale, puis expert industriel à l'ambassade de France à Washington. Ensuite, il a travaillé chez Pechiney, dans le groupe Pechiney de 86 à 94. Et depuis 94, il est dans l'entreprise de consultant Andersen Consulting, où il est partenaire. Il a publié il y a 2 ans « Dans quelle entreprise travaillerons-nous demain ?» chez Hachette Littérature. Il est spécialiste de marketing, d'organisation, de nouvelle économie et des modèles du travail et de l'organisation. Je lui donne la parole pour sa conférence sur la gestion des personnes et le pouvoir dans l'entreprise, la loyauté dans l'entreprise, mais il nous expliquera le sens de cet anglicisme. Voilà, merci.
Bonjour. Effectivement, le thème qui m'avait été proposé, gestion des personnes, pouvoir et loyauté, j'y ai ajouté, là, pour ceux qui ont vu le premier titre, j'ai rajouté l'impact de la nouvelle économie, parce que je m'étais dit qu'effectivement, pour un samedi de mai, ça pourrait faire de l'audience. Et parce que le thème est tellement vaste que finalement, je vais essayer de traiter une seule partie qui est justement... au XXIe siècle, comment ces relations de pouvoir et interpersonnelles peuvent évoluer. Alors, comme vous l'a dit Yves Michaud, je suis consultant, donc c'est une race un petit peu inquiétante dans cet environnement, de recherche, de compétences théoriques. Je suis beaucoup plus dans l'univers de l'entreprise de manière assez pragmatique, parfois un petit peu inquiétante. Hein. On est tous des gens costards trois pièces, assez tristes, assez sombres, qui font un petit peu peur. Donc peut-être que j'arriverai à modifier un tout petit peu cette image aujourd'hui. Et l'une des compétences que j'essaie de développer, donc, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle les dot-com aujourd'hui. Donc ma principale responsabilité chez Andersen Consulting, c'est d'être en charge de ce qu'on appelle un accélérateur. Donc on a mis en place une structure dite accélérateur qui doit accompagner donc, des entreprises de type start-up, internet et faciliter leur industrialisation. Donc à ce titre, effectivement, je suis confronté quotidiennement à des modèles de management qui sont un petit peu différents. Alors, le thème étant vaste, quels sont les éléments que je peux essayer d'y apporter? Comme on vous l'a dit, donc il y a un premier élément un petit peu théorique. J'ai essayé de réfléchir il y a environ 2 ans sur l'entreprise et l'évolution du management et des modèles de management dans l'entreprise. C'était un petit peu avant l'apparition justement de la nouvelle économie. On était plus en phase récessive forte en Europe. Aujourd'hui, le contexte est très différent et permet peut-être d'envisager justement des évolutions de relations de pouvoir assez intéressantes. Deuxième aspect qui est effectivement professionnel, mon rôle principal, c'est justement de travailler sur les organisations et donc sur les relations entre les acteurs, sur les relations de pouvoir bien sûr, mais aussi des relations de type process, de type métier, et de voir ce qui est possible en termes d'optimisation, d'amélioration, et pas toujours, même plutôt rarement, dans une optique simplement de gestion de coûts, mais beaucoup plus dans une optique de gestion d'efficacité et de performance commerciale. Et le dernier aspect qui est plus personnel, c'est je trouve assez intéressant de comparer les modèles de management à la fois dans le domaine de la politique et le domaine de l'entreprise, ce qui sera peut-être une introduction sur des suites de l'Université Tous les Savoirs, et j'essaierai brièvement d'évoquer un petit peu ça. C'est deux environnements qui sont souvent mis en opposition, alors qu'il y a beaucoup de règles de gestion qui pourraient s'appliquer dans les deux. Donc un parti pris, d'où l'anglicisme, qui est de travailler sur la relation entre l'individu et l'entreprise à travers cette conception de loyauté. Il y a énormément de théories qui se sont développées sur la loyauté, à la fois des actionnaires, des employés, des clients. C'est un thème qui est extrêmement porteur dans le domaine du conseil, dans le domaine de la transformation des entreprises et qui est, à mon avis, extrêmement impacté par tout ce qui se passe dans le domaine de la nouvelle économie. Alors, comme il s'agit d'une leçon, je vais vous donner le plan. Je crois qu'il n'a pas été distribué. On va faire très simple. Donc, c'est le pouvoir dans l'entreprise, à quoi ça correspond, quelles sont ses représentations, quelques attributs. Je passerai quelques temps sur les stock options. Je pense que c'est dans tous les journaux, donc ça mérite éventuellement de comprendre en quoi c'est un élément symbolique aussi fort du pouvoir et de la performance. Une petite digression sur les variations culturelles. Le management à la française est extrêmement décalé des modes de management en dehors de France, et en particulier dans le monde anglo-saxon. Donc quand on vit à Paris, on n'en a pas nécessairement la même perception. Et je vais essayer de vous montrer en quoi c'est extrêmement différent et les impacts que ça peut avoir dans des environnements, je dirais, plus innovants ou pionniers comme ceux de l'Internet. La deuxième partie, donc, qui sera le lien entre le pouvoir et les modes de management. Alors, si vous ne connaissez pas bien les consultants, sachez qu'on fonctionne sur la base de matrices bidimensionnelles maximum et sans éléments quantitatifs, de telle sorte que personne ne puisse vérifier les hypothèses qu'on propose. Donc, ce sera ma base de démonstration, qui me permettra d'introduire, donc, de manière extrêmement scientifique, le thème de la perte de confiance à l'égard du management, qui est à mon avis extrêmement pertinent aujourd'hui. Il y a beaucoup de critiques dans les entreprises et dans l'environnement, je dirais, national et international, sur le rôle du management. Et j'essaierai donc d'aborder un petit peu ce sujet-là et le lien avec la nouvelle économie. Dernière partie, donc, la loyauté. Je dirais que l'entreprise était au début du XXe siècle, il faut parler du siècle dernier maintenant, très axée sur l'emploi à vie. On a bien vu avec les périodes de récession forte que cette relation, enfin la fidélité au moins dans le sens de l'entreprise par rapport aux salariés, s'était extrêmement atténuée. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure elle ne s'atténue pas en sens inverse, c'est-à-dire la difficulté qu'ont les entreprises aujourd'hui à trouver des ressources compétentes. Donc pour les étudiants qui sont généralement dans cet amphi, ils rentrent dans une décennie formidable où les entreprises ont besoin d'eux, alors que les deux décennies précédentes, c'était quand même un petit peu le contraire. Donc ce sera, la troisième partie de cette présentation. Alors, donc, nouvelle économie, nouveau mode de gestion interpersonnelle. Qu'est-ce qui peut inspirer cette introduction? Andersen Consulting a perdu son CEO il y a à peu près 6 mois, donc ça n'a pas fait énormément de bruit en France, mais on est une entreprise de 65 000 personnes dans le monde, et donc en particulier aux États-Unis, ça fait un petit peu de bruit, puisqu'il est parti prendre la direction d'une épicerie sur Internet, je caricature volontairement, qui s'appelle Webvan. Donc il est passé d'un statut a priori très impressionnant de CEO d'une entreprise de 65 000 personnes à un poste de PDG, donc d'une épicerie en ligne qui n'existait pas encore, si ce n'est qu'elle avait un entrepôt à San Francisco. Pour comprendre ce type de phénomène, effectivement, il faut avoir une certaine idée de cet environnement. Autre exemple, donc, il a été mentionné que j'étais centralien et mon activité principale à Centrale, c'était de jouer au foot. Et notre star de foot s'appelait Alexandre Attal et qui se trouve être aussi l'un des plus brillants de nos promotions, puisqu'il était vice-président chez IBM en charge de tout ce qui est e-commerce. A priori, avec des stock options, c'est extrêmement rémunératrice. Malgré tout, il y a à peu près un mois, il est parti comme DG de freelance.com à New York, entreprise dont probablement personne d'entre vous n'avait entendu parler ou n'a entendu parler. Et ça pose quand même quelques questions, au moins pour un de ses collègues footeux. Et alors, puisqu'on est dans le sport, donc Patrick Chen à France Télévisions a récemment annoncé qu'il abandonnait donc la direction du service des sports pour lancer sa start-up. Là aussi, c'était donc très médiatisé. Dernier exemple qui nous a touché directement dans mon entreprise, vous avez peut-être entendu parler d'un changement de ministre de l'économie et des finances il n'y a pas très longtemps. Laurent Fabius donc cherchait un directeur de cabinet. Il a appelé son ami Serge Wimbert, qui est le patron de PPR Interactive, qui a autorisé le départ de Bruno Kremel, donc, qui était le patron de PPR Interactive, qui est la branche internet de PPR. Et dans la foulée, donc, ils nous ont appelé, nous, pour venir chercher chez nous un associé qui a pris donc la direction de PPR Interactive. Alors l'anecdote est amusante parce qu'à mon avis c'est le dernier exemple d'un transfert de la nouvelle économie vers la très ancienne économie de Bercy, mais en tout cas ça a fait effectivement un petit peu de bruit. Alors pourquoi tout ça? Ben effectivement, les stock options, c'est souvent l'argument qui est avancé. En fait, si je reprends l'expression de Alexandre Attal, c'est ce qu'il dit, l'excitation qui règne dans nos bureaux n'a rien à voir avec le calme de la tour IBM. Il prend un autre exemple d'ailleurs, qui est de dire qu'effectivement, quand il a besoin d'une photo, il descend au photomaton, alors qu'avant, il appelait le service de presse d'IBM qui venait le prendre en photo dans son bureau. Et c'est clair que ce mode de vie peut être perçu comme extrêmement attractif, en particulier lorsqu'on parle de population jeune, de tous les gens qui vivent sur cet environnement Internet, avec un certain nombre de caractéristiques vestimentaires, de collégialité, de simplicité qui sont très différentes. Les pantalons fluo sont très à la mode chez eBazaar, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins chez Andersen Consulting. Alors ça a des conséquences sur les règles traditionnelles du management, y compris pour des gens comme nous qui travaillons avec eux. Il y a un apprentissage qui se fait qui est assez intéressant. Et en particulier, ce qui se passe, c'est que ça crée un appel d'air formidable sur le marché de l'emploi. Ça accélère les rotations de personnel, et plutôt les personnels les plus compétents, avec une tendance au jeunisme, qui n'est pas une fin en soi, parce que bon, je m'approche quand même de la quarantaine. Mais c'est vrai que ça fait pas de mal dans un certain nombre d'entreprises de déconnecter la notion de compétence de celle d'âge et d'ancienneté. Et il y a toute une réflexion nouvelle qui apparaît sur la fidélisation des employés, puisque lorsque vous vous apercevez tout d'un coup que tous vos jeunes partent au bout de 6 mois, qu'un certain nombre de gens que vous croyez attachés à l'entreprise et très compétents sur tel ou tel sujet partent dans des dot-com, ça vous oblige à réfléchir à vos modèles de rémunération, à vos modèles de management, essayer de comprendre ce qui leur manque dans l'environnement formidable que vous pensiez leur offrir. Alors, très rapidement, je dirais l'entreprise traditionnelle, comment s'exprime le pouvoir. Il y a un vieux dicton saint-cyrien qui définit de manière assez basique ce que c'est que le pouvoir. Donc, article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si le chef a tort, se rapportait à l'article 1, qui restait quand même une des règles assez basiques de pas mal de très grandes entreprises. Alors bien sûr, l'entreprise n'aime pas le mot pouvoir, donc on utilise une terminologie qui est un petit peu décalée, qui est adaptée, qui est plus neutre, qui est plus soft. On va parler de hiérarchie plutôt que d'autorité. C'est le premier mot que j'ai découvert en rentrant chez Pechiney, c'était effectivement l'importance de la hiérarchie dans la communication, dans le partage du savoir, dans la diffusion de l'information. Lorsqu'on fait, je dirais, du conseil dans des entreprises progressistes, l'une des bases, c'est la réduction du nombre de niveaux hiérarchiques. C'est comme ça effectivement que résonnent un petit peu les responsables d'organisation d'entreprise. Deuxième thème très fort, c'est la responsabilité et ou la prise de décision. Alors, dans une entreprise, le responsable, c'est celui qui est responsable du compte de résultat. C'est pour ça que le modèle français est un petit peu décalé, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui sont nées en particulier à l'époque des entreprises d'État sans avoir de notion de résultat particulièrement précise. Donc on avait, un positionnement des managers qui était différent. Dans l'entreprise, en général, vous êtes responsable d'un compte de résultat. Selon l'adage bien connu, on ne vous impose pas la fin et les moyens. La fin étant le résultat, les moyens, c'est vous qui vous démerdez. Et grosso modo, ça veut dire qu'un responsable décisionnaire a une liberté dans sa gestion, dans sa capacité de prise de décision qui est extrêmement importante. Alors ça amène bien sûr effectivement des frustrations, puisque ça amène une certaine personnalisation de la prise de décision. Et donc tous ceux qui doivent en subir les conséquences se sentent frustrés, inhibés, et ça fait partie un petit peu de toutes les récriminations sur le modèle de management traditionnel. Dernier aspect qui est la carrière. Donc vous rentrez dans une entreprise pour faire carrière, en tout cas c'est ce que vous expliquera le DRH le premier jour. Et une carrière, c'est bien sûr une carrière maison. Pourquoi ? Parce que la grande majorité des PDG d'entreprise ont effectivement fait plus de 15 ans de carrière dans l'entreprise qu'ils dirigent. Donc il y a quand même un lien de cause à effet. Ce n'est pas suffisant, mais c'est une base effectivement utile. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire ses preuves dans une entreprise pour pouvoir y faire carrière. Ça veut dire faire de l'opérationnel. Là, je crois que c'est très proche de l'armée. Si vous n'avez pas un peu mis les pieds dans la boue, vous êtes difficilement reconnu. Il faut être adoubé, il faut avoir des sponsors, bien sûr. Il faut avoir fait la preuve de sa loyauté au chef et à l'entreprise. Il faut avoir une certaine patience. Dans les grandes entreprises, je dirais que le carriérisme commence à 40 ans. Donc il me reste encore quelques mois. Alors, il y a quelques passe-droits. Vous avez bien sûr les exceptions qui sont dans la presse. C'était l'INSEO Owen Jones quand il a pris la direction de L'Oréal. C'était Jack Welch lorsqu'il a pris les directions de GEC. C'est tellement des exceptions que ça fait pour l'un et pour l'autre pratiquement 15 ans qu'ils y sont. Donc, pour ce qui est de la suite, je dirais qu'ils ont, ils ont pris la fenêtre d'opportunité, mais ils ne l'ont pas ouverte pour les autres. Et c'est, la conséquence, c'est que finalement, les modèles de pouvoir sont assez fascinés par ces éléments de stratégie militaire, par un certain type donc d'autorité, par le taylorisme qui a malheureusement marqué de manière dramatique le XXe siècle et pas seulement dans l'automobile, et par cette culture donc du savoir. On était, je dirais, jusqu'au milieu des années 70, dans la plupart des entreprises, l'information, c'était le pouvoir. Alors c'est un peu plus dur aujourd'hui où les jeunes embauchés ont tendance à être mieux informés que leurs patrons, en particulier dans le domaine Internet, mais c'était vraiment pas le cas pendant l'essentiel du XXe siècle. Et donc, dans ce cadre, un PDG était quand même quelqu'un qui avait des pouvoirs assez exorbitants. Alors, vous vous souvenez peut-être que Mitterrand était surnommé Dieu. Je connais beaucoup d'entreprises où le patron est surnommé Dieu, y compris donc une grande entreprise cosmétique française, dont je tairai le nom. Et c'est lié effectivement à une certaine pratique du pouvoir et très nettement à un certain nombre d'excès qui y sont liés. Le confort du PDG devient parfois un élément particulièrement fondamental de votre capacité à bien gérer votre carrière. Et ça, c'est très différent en France de ce qui se passe dans certains autres pays. La Hollande, par exemple, est beaucoup plus démocratique dans la relation et le comportement du management vis-à-vis des employés. Alors, je mentionne ça parce que finalement, on parle beaucoup, et je vais revenir aux rémunérations stock options, mais les vrais attributs du pouvoir qui sont les plus recherchés, ils sont plutôt ailleurs. C'était l'anecdote du photomaton, c'est le bureau, c'est le logement de fonction qui a fini par plomber la carrière de Pierre Suard. C'est la voiture et le type de voiture. Les plans voitures d'entreprise sont toujours revus précisément par le PDG pour être sûr que la marque qu'il préfère fasse partie effectivement de la sélection. Il y a un certain nombre de services qui sont associés, dont certains sont légitimes parce qu'effectivement, il est interdit d'utiliser son téléphone portable en voiture, donc vaut mieux un chauffeur. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais ça fait partie là aussi de la politique spécifique que vont développer telle ou telle entreprise. Et c'est vrai que c'est des éléments un petit peu fidélisants. Beaucoup de gens souhaitent pouvoir effectuer un voyage en Concorde dans leur vie. Et lorsque vous devez faire effectivement des allers-retours Paris-New York une fois par semaine, ça fait un changement de qualité de vie exceptionnel. Et tous les derniers éléments qui sont liés à la connectabilité. Aujourd'hui, le portable ultra plat de Sony est extrêmement populaire dans les entreprises de haute technologie. Là, c'est donc tous ces attributs non financiers qui sont fortement développés. Et en particulier pour des raisons toutes bêtes et fiscales, puisque la fiscalité étant devenue particulièrement agressive sur les rémunérations, elle l'est moins sur ce genre de choses. Même si dans des environnements type anglo-saxon, c'est quand même bien la rémunération, les bonus et les stocks qui représentent la part essentielle. Alors tout ça crée, je dirais, un certain climat, une certaine perception de ce qu'est le pouvoir dans l'entreprise, qui fait quand même un petit peu référence à la vieille image de lutte des classes. Et heureusement, c'est des choses qui vont totalement disparaître dans l'environnement Internet. D'abord parce qu'on se déplace plus, c'est virtuel, donc déjà il y a un gros avantage de ce côté-là. Mais simplement parce qu'effectivement, les réflexes sont très différents. Alors, rapidement, puisque je parlais des rémunérations, on a souvent l'impression qu'aux États-Unis, donc, tout est transparent, il n'y a aucun problème, donc le fait d'être bien payé est extrêmement bien perçu par la société. Alors, juste pour rappeler que les États-Unis sont une société comme les autres, un petit sondage, ça datait de, c'est pas donc mai 2000, ça date de 97 ou 98, je pense qu'on le referait cette année, ce serait exactement pareil. Sondage public, mais sur des gens qui travaillent en entreprise, est-ce que vous pensez que les patrons sont trop payés? La réponse est unanime, hein, donc que ce soit les dirigeants donc, qui s'auto-considèrent comme trop payés ou que ce soit le public, où là c'était quand même un petit peu plus logique et démagogique. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a bien effectivement tout un tas de symboles qui sont associés au pouvoir et qui sont quand même sensiblement, je dirais, critiqués ou perçus avec une certaine dénégation par de nombreux employés. Alors le dernier thème, donc, puisque c'est la tarte à la crème du moment, c'est les stock options. J'ai l'impression que il n'y a pas de publication du Monde ou de Libération aujourd'hui où il n'y ait pas une référence à ce thème dans les pages économie. Alors, de quoi on parle exactement, puisque ça fait partie de ces symboles extrêmement recherchés? Alors, pour des entreprises classiques, cotées en bourse, C'est une composante qui est en général réservée aux cadres dirigeants. Vous avez une petite centaine de cadres le plus souvent qui sont concernés. Donc c'est une distribution d'actions gratuites, valeur nominale fixée à l'avance. Et si les performances de la société sont bonnes en bourse, eh bien effectivement, c'est une machine à imprimer de l'argent puisque vous achetez des actions à un taux donné. Et si la bourse a pris 30%, bah vous avez fait 30% à la fin. Alors pourquoi cette logique-là ? Il y a quand même, je dirais, un raisonnement économique en dessous, hein, le raisonnement libéral qui est très rationnel. C'est donc la notion de valeur pour l'actionnaire. Les actionnaires souhaitent avoir une valorisation de l'entreprise qui s'améliore, donc ils rémunèrent leur cadre dirigeant sur leur capacité à créer de la valeur pour l'actionnaire. Ça, c'est, je dirais, pour le cas de grandes entreprises. Pour les startups, c'est encore plus évident, puisqu'une startup n'ayant pas ou très peu de capital, si elle veut attirer des compétences rares, il faut qu'elle puisse leur offrir un package, comme on dit donc en anglais, qui soit attractif. Et les stock options qui sont liés à une mise sur le marché probable donc de l'entreprise permettent effectivement de proposer des solutions, enfin leviers en termes de rémunération particulièrement performants. Donc voilà un petit peu toute la logique des stocks. Alors, deux choses. Bon, est-ce que la valeur pour l'actionnaire est une théorie extrêmement satisfaisante ? C'est un autre débat qui est extrêmement compliqué. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on est dans des environnements extrêmement dynamiques des marchés financiers, comme c'est le cas depuis 2 ou 3 ans, le système rémunère de manière quasi indifférenciée les patrons performants et ceux qui ne le sont pas. Donc en ce sens-là, ce n'est pas du tout une problématique de valeur pour l'actionnaire, c'est beaucoup plus lié à la performance d'ensemble de la bourse. Alors, d'où la controverse Jaffré, puisque lorsque les gens ont noté effectivement les montants, on parlait donc de 200 millions de stock options qui allaient lui être versés pour sa performance chez Elf. D'ailleurs, je crois qu'il a beaucoup d'humour, puisqu'il a créé une entreprise qui s'appelle, je crois, Stock Options. Donc, au moins de ce côté-là, il assume, je trouve ça bien. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, sa performance à lui était relativement exceptionnelle sur le marché français. Alors après, on peut dire que cette rémunération est totalement inacceptable ou pas. Je dirais que c'est plus un problème de choix personnel. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans son cas, il avait réellement créé de la valeur pour l'actionnaire et donc il était tout à fait logique qu'il en tire des bénéfices. Et des bénéfices conséquents, puisque finalement, il était sur un marché assez compétitif par rapport à des patrons de grandes entreprises du pétrole dans le monde, puisque c'est un marché mondial, qui pouvait avoir accès à ce type de package. Malheureusement, c'était plutôt l'exception en l'occurrence, puisqu'il y a énormément de cadres qui sont rémunérés simplement par rapport à une évolution globale de la performance boursière. Donc en conclusion là-dessus, il me semble que autant pour les dot-com, il y a un trade-off qui est très, très, très évident, qui est de dire on prend un risque en allant travailler pour une start-up et on est rémunéré de manière risquée sur ce choix. Autant effectivement aujourd'hui par rapport à des grandes entreprises, on est plus dans une manne incontrôlée et qui est quand même un petit peu réservée à des privilégiés. Alors ça peut m'arriver d'y participer, donc ça m'amènerait éventuellement à changer un petit peu mon point de vue, mais ça reste malheureusement quelque chose d'assez flagrant lorsqu'on regarde effectivement l'évolution des marchés financiers sur les 3-4 dernières années. Alors le dernier point que je voulais aborder sur un petit peu cet environnement du pouvoir dans l'entreprise, c'est les aspects culturels. Une étude de l'Institut du marketing a essayé de modéliser les variations culturelles en termes de dimension. Pardon, je ne suis pas sur la bonne page. En termes de dimensions structurantes. Et donc, ils ont trouvé 4 ou 5 dimensions qui permettent de caractériser les modes de management sur la majorité des cultures mondiales. Alors, 2 dimensions qui sont finalement assez simples. L'individualisme, qui est finalement la différenciation principale entre le modèle capitaliste et les autres, donc qui se retrouve très naturellement dans les environnements plus particulièrement capitalistes. La masculinité, puisque ça ne vous aura pas échappé que le monde de l'entreprise reste encore majoritairement masculin. 2 dimensions que je vais essayer d'aborder un peu plus dans le détail, qui ne sont pas faciles à traduire. Alors vous m'excuserez pour les anglicismes, c'est la déformation Andersen, je n'ai pas toujours le vocabulaire complètement ajusté. Power distance, c'est une manière d'aborder justement la relation à l'autorité. Et uncertainty avoidance, c'est plutôt la relation aux règles et la prise de risque. Donc, dans le premier cas, c'est le degré de distance entre un patron et ses employés qui va être modélisé. Et dans le deuxième, c'est la peur de l'incertain, au sens où, je dirais, des environnements culturels comme le Japon, île volcanique, ont dans leur culture une angoisse profonde de tout ce qui est incertain. Il se trouve que c'est l'un des points communs entre la France et le Japon. On n'est pas une île volcanique, mais on a exactement la même incertitude devant l'avenir. Alors sur ces deux dimensions extrêmement importantes, donc la France est classée entre guillemets hors norme, donc très très haute sur ces deux dimensions. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce que ces dimensions reflètent. Elles vont revenir derrière moi. Alors fort besoin de dépendance. Inégalité acceptée. Une anecdote, la première fois que je suis arrivé justement dans une usine de Pechiney, vous aviez du vouvoiement, tutoiement non réciproque, c'est-à-dire que le patron tutoyait ses équipes qui le vouvoyaient. Ça arrivait aussi dans un certain nombre de familles traditionnelles en France au début du siècle, je crois. Mais c'est assez caractéristique d'un décalage très fort. Vous imaginez bien qu'en anglais, ça ne peut pas fonctionner. Donc on avait ce type de modèle qui restait extrêmement présent. Besoin d'hiérarchie. Alors sachez-le, vous avez tous là, pour tous ceux qui sont français en tout cas, besoin d'hiérarchie. Donc c'est vrai qu'on s'en plaint parfois, mais ça fait partie des choses dont on est demandeur. D'où un accès réduit aux supérieurs, effectivement, qui ne sont jamais visibles ou disponibles. On accepte très bien finalement les privilèges de pouvoir. Donc c'est pour ça que finalement les excès du mitterrandisme n'étaient pas tellement déplaisants. On trouve ça plutôt sympathique. Et le dernier point, c'est le changement est considéré comme révolutionnaire. Donc ça, bien sûr, ça date de 89, mais c'est frappant au sens où ça veut dire que les patrons eux-mêmes sont dans une logique conservatrice et ont tous une vraie peur du changement dans leur entreprise. Donc on est dans une logique, bon, alors, je l'ai interprété dans la version française, où effectivement on retrouve un certain nombre de caractéristiques managériales qui sont très particulières et qui sont effectivement décalées d'un environnement de type pionnier californien ou nouvelle économie. L'autre partie sur la peur de l'incertain. Alors clairement, on constate en France une faiblesse en nombre au moins de la capacité entrepreneuriale. On a beaucoup moins de start-up et beaucoup moins d'entrepreneurs que dans des pays voisins, en particulier l'Angleterre ou les États-Unis. Alors c'est lié à une forte anxiété, on est tous des grands anxieux en France. Alors c'est une conséquence qui est positive, c'est la raison pour laquelle on boit du vin à midi, c'est justement pour relâcher un peu l'anxiété. Donc vous pouvez vous sentir libéré de ce fait lorsque vous prenez un verre de pinard à midi, ça fait partie des choses qui sont cohérentes avec notre comportement culturel. Le deuxième aspect, c'est qu'on est... c'est pas une tendance passéiste, excusez la faute de Prap, c'est présentéiste. Alors je suis un exemple tout à fait caricatural du temps passé au bureau. Workaholic, ça fait partie, je dirais, de la culture française, au sens où pour nous la présence fait partie des éléments essentiels de l'autorité, du pouvoir, on doit donner l'exemple. Et c'est vrai que chaque fois que je suis en Allemagne et que je vois les BMW des grands patrons qui partent à 5h du soir, je trouve que quand même on est un petit peu maso. Environnement émotionnel, c'est très frappant effectivement pour les gens qui viennent de l'étranger. Les relations sont beaucoup plus émotionnelles, à la fois dans le comportement et dans la prise de décision. En même temps, peur du conflit. On n'aime pas vraiment, les conflits durs et on les contourne à travers des relations de personnes. Recherche du consensus qui va avec. Et angoisse de l'échec, ça ne vous a pas échappé qu'effectivement, il vaut mieux pas rater sa première start-up en France parce qu'on a peu de chances de retrouver un financement pour la suivante. Alors qu'aux États-Unis, c'est un peu le contraire, le fait d'avoir déjà essayé une fois. On a de bonnes chances, effectivement, d'être mieux soutenu la première, la deuxième, puisqu'on aura déjà appris. Besoin de lois et de règles, donc, qui va dans cette logique. Alors, tout ça donc pour montrer que sur ces deux caractéristiques, la France est extrêmement surdimensionnée. Bien entendu, les pays anglo-saxons sont au contraire positionnés très bas à la fois sur power distance et sur uncertainty avoidance. Et donc, ça les amène à avoir des réflexes contraires en termes de réflexes hiérarchiques. Alors pour résumer, sur la base américaine, c'est individualisme forcené. Là, effectivement, ils sont très en avance sur nous. Relation à l'autorité beaucoup plus souple sur toutes ces caractéristiques de power distance. Peu de problèmes avec l'incertain, du fait d'un grand pragmatisme, une capacité empirique très forte, une forte capacité entrepreneuriale. Donc on voit bien un décalage très fort, et donc dans les modèles de management français, ça se retrouve bien entendu, d'où une certaine difficulté ou parfois un certain retard à l'allumage sur la nouvelle économie, sur des nouvelles industries. C'était déjà un peu le cas sur les start-up dans le domaine informatique au début des années 80. Alors, voilà un petit peu très rapidement brosser le panorama du pouvoir dans l'entreprise. Alors, je crois que j'ai déjà consommé la moitié du temps autorisé. Donc, la deuxième partie va être balayée très rapidement. Comme je vous l'ai dit en introduction, de toute façon, c'est un modèle extrêmement simple, une matrice à deux dimensions. Donc, je vous la présente tout de suite. Elle permet donc de modéliser de manière extraordinairement précise les modèles de management sur deux axes, donc un axe centralisé ou décentralisé, donc top-down ou bottom-up dans le vocabulaire anglais, et puis l'axe donc linéaire matriciel, ce qui me permet grosso modo, y compris lorsque je fais des présentations à des entreprises, de résumer un siècle d'évolution des modèles managériaux de manière assez exhaustive. Donc c'est tout l'intérêt de cette matrice. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On est parti effectivement initialement de modèles très centralisés, type militaire, et extrêmement linéaires, avec donc des strates de pouvoir qui sont extrêmement précises et liées donc à une hiérarchie de grade, etc. C'était aussi le cas dans les entreprises tayloriennes de type Ford ou autres grandes entreprises automobiles au début du siècle. On est passé ensuite sur les modèles de type multinational d'un côté. Donc c'est le déploiement en particulier d'une entreprise comme Coca-Cola qui a cette double caractéristique d'être extraordinairement centralisée. Donc là, ils ont même été un tout petit peu trop loin. C'est pour ça qu'ils ont viré leur patron, parce que le problème d'un tel degré de centralisation, c'est qu'effectivement, si le patron pète les plombs, on est quand même dans une entreprise qui a des gros problèmes. Donc là, effectivement, c'est ce qui s'est passé et ça les amènera à modifier un tout petit peu le modèle de fonctionnement. Mais c'est aussi une entreprise très matricielle, puisque, je dirais, elle fonctionne par réseau d'alliances, avec des partenariats multiples, avec des embouteilleurs dans tout un tas de pays, avec une capacité de déploiement international qui est tout à fait phénoménale, et qui a permis à Coca d'être la meilleure valeur boursière américaine sur les 30 dernières années. Troisième modèle, donc lorsqu'on part de la matrice à droite et qu'on descend, c'est les modèles de type conglomérat. Donc par acquisition, vous arrivez à une juxtaposition d'entreprises assez différentes. Donc c'est des modèles type Unilever, Nestlé, où la structure pays garde un poids extrêmement important à l'intérieur d'une structure d'ensemble qui est malgré tout, internationale et très puissante. Donc on reste sur quelque chose d'assez linéaire, mais qui est décomposé, c'est-à-dire que la linéarité s'applique au niveau d'un pays, ou dans le cas d'Unilever, vous avez le triumvirat de départ et qui l'applique, je dirais, de manière descendante. Et puis vous avez toutes les entreprises de réseau, donc qui sont le modèle le plus populaire aujourd'hui, dont font partie la majorité des entreprises informatiques, en particulier les entreprises de software ou des entreprises de conseil, qui essaye donc d'arriver à marier à la fois un système matriciel, c'est-à-dire des compétences spécifiques qui sont distribuées à un niveau mondial, et puis un système qui est très innervé. Le conseil par nature doit être extrêmement proche des marchés dans lesquels il opère, et donc la relation culturelle est particulièrement forte, en particulier compte tenu des modes de management dont je parlais précédemment. Donc vous avez cette double complexité qui est d'arriver à gérer des matrices de plus en plus compliquées compte tenu de tout ce que la technologie, de tout ce que les techniques marketing aujourd'hui permettent de faire, et en même temps vous avez cette volonté de rester extrêmement près du marché. C'est le grand concept global de ABB, donc être global et être local en parallèle. Donc voilà, je dirais le modèle dans sa version la plus simplifiée. Alors ce qui est rassurant, c'est qu'un livre qui vient de sortir sur le management du troisième millénaire arrive grosso modo à la même conclusion. Si vous regardez bien donc les deux cases du milieu sur le management dans la troisième phase, qui est celle du XXe siècle, industriel commercial, qui était très orienté sur adapter, négocier, et qui passe au XXIe siècle sur générer, animer. Donc on arrive aussi, dans cette analyse qui est d'ailleurs très intéressante de Michel Salovkost, à faire apparaître, à travers l'apparition de tout ce qui est médias et communication, une rupture très forte dans le modèle de management. Donc celui que je vous ai décrit était plus, le modèle agriculture-élevage, hein, puisque finalement l'armée reposait sur un modèle de type agriculture-élevage, hiérarchisé, imposé. L'évolution fin du XXe siècle à travers les modèles de réseau, c'est justement cette capacité d'adaptation, de localisation et cette capacité de négociation, puisqu'effectivement, le multiculturel vous oblige à négocier sur la base de ces différences culturelles qui sont relativement compliquées. Une fois de plus, le coq gaulois a résisté, puisque Orangina ne s'est pas vendu à Coca-Cola. Ça fait partie des choses qui sont difficiles à comprendre pour des Américains, mais effectivement, ça les oblige à avoir un modèle de management qui a évolué au XXe siècle. Et ce qui va venir maintenant, et ce qui est très intéressant lorsqu'on parle de start-up, c'est toute cette notion d'animation et de génération à la fois de créativité et de valeur. Alors, un exemple qui le résume très bien, c'est l'histoire d'Apple. Je vais être très bref parce que je pense qu'elle est connue de tous. Steve Jobs a créé donc Apple dans son garage. C'était une très belle histoire. C'est devenu le premier concurrent d'IBM dans le domaine de l'informatique personnelle, avec une part de marché au meilleur moment qui était de l'ordre de 12 à 14%. Ensuite, l'entreprise a failli plonger. Elle a changé de management. Elle est passée sur un management dit professionnel. Quelqu'un est venu de Pepsi pour gérer Apple. Steve Jobs est parti, l'entreprise a perdu ses valeurs, sa culture, a failli mourir à nouveau, il est revenu pour la reprendre. On est sur un cycle, je dirais, complet de ce que c'est qu'effectivement le management d'une start-up. Et ce qui est intéressant d'en retenir, je dirais, au-delà de l'effet Apple, puisque si Boo.com avait vu ma présentation, ils n'auraient peut-être pas effectivement déposé leur bilan, mais grosso modo, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les start-up. Vous avez une dérive entrepreneuriale, émotionnelle, qui est un petit peu inévitable. Ensuite, vous avez une phase de professionnalisation qui doit arriver à une combinaison, je dirais, homogène. Alors, ce qui est très important à retenir, c'est qu'on a souvent une image un peu babacool de ces gens-là, en particulier à l'époque, au début des années 80. C'est des gens qui sont complètement incarnés dans la culture capitaliste. Hein. Ce qui est très frappant dans la culture start-up, c'est cette dualité. Donc c'est l'anti post-68 art ou de l'anti babacool. C'est effectivement plus cool, mais dans un environnement qui est extrêmement lié à cette logique financière, à la logique des marchés financiers. Alors, le deuxième thème que je voulais effectivement aborder, hein, au-delà des modèles de management, c'est le fait que malgré cette évolution assez lente de ces différents modèles, généralement la fin du XXe siècle a été marquée par une perte de confiance dans le management. C'est très frappant lorsqu'on interviewe des jeunes diplômés de grandes universités, LBS, Harvard, etc., qui n'aspirent absolument pas à ce type de carrière. Alors, les sources que j'avais utilisées dans mon livre datent de 97. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur tous les MBA, la moitié veulent faire une dot-com. Il y en a encore quelques-uns qui veulent faire du conseil, mais de moins en moins. Et il n'y en a aucun qui veut aller dans une grande entreprise traditionnelle. Donc on est vraiment sur une désaffection extrêmement profonde. Alors, en parallèle, vous avez certainement vu comment la presse traite ou traitait, je dirais, le management et l'entreprise sur les années 90. Le principe de Dilbert et autres cartoons bien adaptés ont su mettre en évidence de manière caricaturale et ridicule le principe de Peter, hein, le fait que les managers progressent parce que plus ils sont hauts dans la hiérarchie, moins ils perturbent le fonctionnement de l'entreprise. On est plus dans le domaine des guignols de l'info, mais c'est vrai qu'on a On a de ce fait, je dirais, une perception générale de la gestion d'entreprise qui est devenue assez négative, assez ridicule, assez caricaturale. Et des gens comme General Electric l'ont vécu de manière très douloureuse sur leur capacité à recruter pendant ces années-là. Alors la raison, elle est double. Un manque d'idéal, finalement peu d'entreprises arrivent à proposer un idéal, que ce soit de carrière ou de valeur. Notez d'ailleurs à ce sujet la dérive sémantique subtile du MEDEF, puisque Ernest-Antoine Seyer ne parle plus que des entrepreneurs lorsqu'il parle du MEDEF, alors qu'avant, bien sûr, c'était donc le parti des patrons. Et ça, c'est effectivement très subtil. L'entrepreneur a une image très positive dans la société. Alors peut-être que lui-même n'a pas nécessairement l'image qui correspond à ce qu'on attend d'un entrepreneur, ou en tout cas certains de son environnement, mais le choix stratégique qu'il a fait est extrêmement pertinent. Il va tout à fait dans ce sens pour redonner une image de marque beaucoup plus favorable au cercle dirigeant. L'autre aspect, c'est un qui a contribué, je dirais, à cette image très négative, c'est un certain cynisme du pouvoir qui était en particulier au fait que les gens qui étaient responsables d'échecs particulièrement spectaculaires, alors on ne va pas en reparler du Crédit Lyonnais, mais il y en a beaucoup d'autres, se sont de toute façon toujours maintenus jusqu'à ce que l'échec soit avéré. Il n'y a jamais eu d'alerte, il n'y a jamais eu de, entre guillemets, de punition. Et tout ça, effectivement, fait... un effet relativement désastreux au niveau de la perception du public et en particulier des employés, d'autant plus que c'est surtout eux qui, pendant ces années-là, ont payé le tribut de ces échecs, puisque le chômage se trouvait quand même beaucoup plus dans les non-diplômés et parmi les employés que parmi les énarques pour la France ou les cadres dirigeants de manière générale. Alors, tout ça, c'était un petit peu lié à une certaine image du management qui était très ce qu'on appelle en France technocratique et qui, elle aussi, donc, a beaucoup souffert de ces différents échecs. Je pense que le terme technocrate est devenu une insulte aujourd'hui. C'était loin d'être le cas donc, dans les années 60 ou 70. Et finalement, la personne qui a le mieux résumé cette problématique, et c'était une surprise pour moi quand je l'ai découvert, c'est Charles de Gaulle. Donc la citation devrait arriver juste derrière. Ce qui est difficile, ce n'est pas de sortir de Polytechnique, c'est de sortir de l'ordinaire. Alors moi, je n'ai pas réussi à y rentrer, mais donc je me concentre plutôt sur la deuxième moitié de la phrase. Alors, je fais ici très rapidement le lien avec la politique, parce que finalement, l'une des caractéristiques françaises, c'est d'avoir le même type de profil et dans la politique et dans les entreprises, puisque une bonne partie de nos grands patrons sont des ex-énarques et même chose pour nos ministres ou nos hauts fonctionnaires. Et ce qui m'a frappé dans les années 90, c'est justement tout ce qui s'est passé au moment du bref passage d'Alain Juppé comme Premier ministre et toute une certaine image du management qu'il a incarné pendant ces deux années. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, qu'on soit de droite ou de gauche, il y a une sorte de consensus sur le fait que ces années comme Premier ministre n'ont pas été extrêmement brillantes. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi, dans la mesure où, je vous rappelle que c'était censé être le meilleur d'entre nous, enfin en tout cas pour ceux d'entre nous qui sont de droite, et que c'est très probablement l'un des personnages les plus brillants, à la fois en termes intellectuels, en termes de profil de carrière et de ce qu'il avait pu faire avant. Alors, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit sur cette époque, d'un point de vue critique. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est la faiblesse du diagnostic de la difficulté du changement par rapport à son public à lui. Ce qu'on demande à un chef d'entreprise, c'est de savoir gérer le changement dans son entreprise aujourd'hui. C'est le thème le plus important. Et finalement, je pense qu'au niveau d'un Premier ministre, c'est un petit peu la même chose. Et les difficultés par rapport à ça, c'est la notion de solitude, c'est-à-dire la difficulté qu'il a eue à constituer une équipe représentative de son entreprise de l'époque, hein, puisqu'il était plutôt dans une orientation un petit peu conflictuelle avec la majorité de ses ministres et pas seulement les femmes. Le deuxième aspect, c'est la problématique d'engagement et respect des engagements. Donc ça a été beaucoup débattu, puisque les engagements avaient été pris plus par le président de la République que par le Premier ministre. Mais c'est intéressant de voir comment ce type de critique est exactement identique en entreprise. Ce qu'on attend d'un patron, c'est qu'il s'engage sur ce qu'il va faire, sur les résultats qu'il attend, et qu'il réalise ses engagements. Et en particulier, bien sûr, vis-à-vis de la bourse. Et quelque part, c'est un petit peu la même chose pour le patron du bateau France. Le troisième thème qui est extrêmement mal géré par les politiques en général, qui est celui de la communication. Et même s'il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits dans la communication électorale, la communication réelle de management reste encore extrêmement en retrait par rapport à ce qui a pu se développer en efficacité de dialogue à l'intérieur d'un certain nombre d'entreprises progressistes. Et le dernier aspect, c'est la capacité de négociation. Et c'est assez intéressant puisque dans ce domaine-là, en général, les hauts fonctionnaires et les politiques sont plutôt en avance sur les cadres d'entreprise, puisqu'ils apprennent extrêmement tôt à vivre cet univers de la négociation. Aujourd'hui, c'est un des domaines les plus importants, à la fois parce qu'il y a les 35 heures, mais parce qu'effectivement, ces problématiques de fidélisation amènent à négocier, renégocier en permanence les conditions dans lesquelles les employés vont rester dans l'entreprise. Et c'est quelque chose à développer de manière extrêmement forte pour être performant. Alors, ça ne sert à rien de tirer sur une ambulance. Ce qui est frappant, c'est que la problématique politique, vous la retrouvez dans tous les pays. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui caractérise ça pour le modèle français. Vous regardez les débuts de Gerhard Schröder en Allemagne, ça a été une catastrophe absolue. Si la CDU n'avait pas explosé en vol, il était parti pour ne pas finir son premier mandat. À l'époque où Major faisait son deuxième mandat en Angleterre, les critiques étaient sauvages sur son incapacité justement à incarner de manière attractive, de manière convaincante la réforme. Je pense que si on fait le bilan des années Clinton, il y a quand même moins la moitié des années qui sont passées à parler de cigares. Et donc, fondamentalement, là aussi, on n'a pas beaucoup consacré d'énergie à la réalité de ce qu'il était censé faire. Il avait des programmes extrêmement ambitieux et modernistes dans le domaine du management. Donc, je termine là-dessus, sur cette digression, mais c'est quelque chose qui me paraît très intéressant. C'est on a une certaine difficulté en France à se rendre compte des parallélismes entre ces deux mondes, et beaucoup de choses que j'ai pu dire sur la difficulté de transformation du management en entreprise s'appliquent, à mon avis, de manière très pertinente à l'environnement politique. Alors, dernier thème, la nouvelle économie. Donc, il faut probablement que vous soyez totalement autiste pour ne pas avoir d'idée précise de ce que je veux dire par là, mais je vais quand même vous en donner deux mots, avec une introduction de l'un de mes auteurs favoris qui s'appelle John Maynard Keynes, et qui disait donc à l'époque « Worldly wisdom teaches that it's better for the reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally ». Il était britannique, mais il aurait dû être français. Ce qu'il voulait dire, donc, c'est que ce qui est important donc, dans la vie, c'est de préserver sa propre réputation, et pour ça, il vaut mieux être conventionnel dans l'échec que non conventionnel dans le succès. Ça me paraît être une bonne introduction du thème nouvelle économie, puisqu'effectivement la nouvelle économie part du principe du postulat inverse, qui est donc que être non conventionnel est une valeur, y compris lorsque ça représente une prise de risque importante. Ça a des conséquences très intéressantes sur les valeurs managériales. C'est des entreprises qui sont souvent jeunes. Les entrepreneurs sont jeunes, ils sont souvent plus jeunes d'ailleurs que les cadres dirigeants qu'ils recrutent. C'est des entreprises qui reposent sur une composante technologique extrêmement forte, ce qui là aussi amène un certain nombre d'éléments de différenciation importants, puisque la technologie est quelque chose de jeune qui force une mise à jour permanente et rapide. Elles sont d'emblée internationales. Sur Internet, à partir du moment où vous avez mis .com, vous êtes international. Donc c'est simple et effectivement ça marche. Et c'est des entreprises à forte croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prise de décision rapide. Ça veut dire, par définition, erreur de management, parce que quand vous allez vite, vous ne pouvez pas avoir raison à 100%. Mais parfois, quand vous allez lentement, vous plantez aussi. Mais là, c'est clair qu'en tout cas, c'est une des règles de base. Quand on va vite, on fait des erreurs. Donc ça change très fortement, je dirais, les règles de management. Ça veut dire qu'on passe sur un modèle statistique. Il vaut mieux que, en grosso modo, une majorité de vos décisions soient bonnes plutôt que d'en avoir une seule par jour qui soit extrêmement travaillée. Et dans les valeurs de ces entreprises, elles sont plus égalitaires. Je travaille avec une dot-com dans le domaine internet. Le lancement, c'est type première version de Libé, hein, même salaire pour tout le monde. À l'époque, à Libé, il n'y avait pas de stock options. Donc là, il y a des stock options pour tout le monde en plus. Mais c'est pareil, c'est extrêmement décontracté en termes de look, de style, de vocabulaire, de langage, d'environnement général. C'est beaucoup plus coopératif. On n'essaye pas dans une start-up de tout faire soi-même parce qu'on a effectivement conscience très tôt qu'on en est incapable. En général, c'est quand même beaucoup moins macho que d'autres environnements dans lesquels je peux travailler. Très international, une forte place à l'initiative. Et lorsqu'on présente finalement toutes ces valeurs, elles feraient rêver, grosso modo, n'importe quel directeur des ressources humaines d'une entreprise un peu progressiste, parce que c'est le discours qu'ils souhaitent avoir à l'intérieur de leurs entreprises. Mais elles sont effectivement, c'est un discours qui est beaucoup plus convaincant dans des startups. Alors, ça m'amène au véritable thème de cette conférence, donc comme toujours dans ces cas-là, il me restera 5 minutes pour l'aborder, qui est celui de la loyauté et de la fidélisation. Alors en partant d'un premier constat, qui a donné, je dirais, son titre à un excellent livre sur la loyauté, Frédéric Reichfeld, une entreprise perd la moitié de ses salariés en 4 ans, la moitié de ses clients en 5 ans, et la moitié de ses actionnaires en moins d'un an. Alors effectivement, sur ces bases-là, statistiquement, on peut considérer que c'est pas véritablement un modèle fidélisant. Alors là, on est sur des statistiques quand même américaines, mais la moitié de ses salariés en 4 ans, ça représente en termes de coûts de recrutement, en termes de, je dirais, d'efficacité générale de la gestion des ressources humaines, un certain constat de désaveu. La moitié des clients, c'est probablement encore pire, parce qu'effectivement, a priori, une entreprise est plus performante auprès de ses clients fidèles, enfin ses clients donc de longue durée. La moitié de ses actionnaires, ça montre bien que la valeur pour l'actionnaire, c'est une chose, mais qu'en réalité, l'actionnaire n'est pas nécessairement non plus très axé sur la fidélité. Alors, à l'origine, le capitalisme reposait sur un modèle d'emploi à vie, donc a priori très fidélisant et assez paternaliste, hein, qui a duré beaucoup plus longtemps au Japon qu'aux États-Unis. Mais même aux États-Unis, dans les entreprises automobiles, dans les entreprises aéronautiques, vous aviez une logique de l'emploi à vie ou à très long terme qui était extrêmement présente. Pourquoi ? Parce que cette relation de longue durée, elle était dans l'intérêt de l'entreprise qui gardait des compétences qu'elle avait contribué à former. Elle était dans l'intérêt du salarié qui était rémunéré sur sa fidélité à travers différents systèmes de primes d'ancienneté, etc., etc. Et par ailleurs, ça offrait aux salariés une certaine sérénité qui n'est pas nécessairement, je dirais, un handicap dans la performance d'un salarié. Alors, la mobilité a toujours été beaucoup plus forte dans les pays anglo-saxons et en particulier aux États-Unis, mais ce qui ne veut pas dire que le sens du contrat de travail était très différent. Et la théorisation de cette logique de l'emploi à vie, elle vient donc de Ford, qui expliquait qu'il augmentait ses employés pour qu'ils achètent ses voitures afin de financer leur salaire. Donc on était bien sur une logique où l'employé était aussi le client, et donc la capacité à améliorer le sort de ses employés faisait partie de la capacité à augmenter son potentiel commercial. Tout ça était extrêmement efficace. Alors, dans les années, donc, on va dire 80, à partir du milieu des années 80, mais il y avait déjà eu quelques alertes dans les années 70, s'est passée une double trahison. Dans un premier sens, la trahison de l'entreprise par rapport à ses salariés. Du fait de problèmes de performance, on a arrêté de regarder ces problématiques d'attrition. Alors en France, c'était assez anachronique, puisqu'on a toujours la médaille du travail, et en même temps, on a des taux d'attrition sur les grandes entreprises qui sont extrêmement élevés. Quand je suis rentré chez Pechiney, le taux d'attrition sur une nouvelle classe d'âge était de 50%, et c'était considéré comme une bonne performance par rapport à l'environnement du travail. Donc on n'était pas vraiment dans une logique de fidélisation. Si je prends notre concurrent principal dans le domaine du conseil, ils ont carrément institutionnalisé l'attrition et le départ de leurs employés. Jean-Marie Descarpentries, qui est un ancien de McKinsey, expliquait que, à son avis, c'était le système le plus grand gaspillage humain possible. Vous prenez l'environnement de la Bourse de Londres, on est carrément dans les transferts d'équipes. Ça ressemble un peu au foot. Alors vous achetez l'équipe Equities de la Chase Manhattan et puis vous la transférez dans une autre banque. Et tout ça donc à un prix. Alors comme vous l'avez fait une fois, vous savez qu'effectivement il suffit d'augmenter le prix de transfert. Donc finalement Anelka est arrivé bien après sur ce type de logique. Et tout ça a amené effectivement une réaction de rejet de la part des salariés, parce que pendant les périodes de crise, c'était eux qui étaient défidélisés un petit peu contre leur volonté, hein, ce qu'on appelle remercier, le terme est quand même particulièrement approprié, et c'était difficile pour eux de ce fait de croire réellement à un modèle de long terme, de longue durée, à partir du moment où aux premières difficultés, c'était eux qui prenaient la charrette et qui devaient retrouver effectivement des opportunités ailleurs. Les conséquences, c'est qu'il y a eu le développement d'un comportement de plus en plus infidèle aussi de la part des employés, à la fois renforcé par tout ce qui est chasseur de tête et gestion de ressources humaines externes, le fameux réflexe CV, par des réflexes extrêmement négatifs liés à tout ce qui était licenciement collectif, donc une non-participation à la création de valeur de l'entreprise. Les années 80 étaient très marquées par le re-engineering, c'était un grand thème de conseil sur lequel on a fait beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. Le principe du re-engineering, c'est d'utiliser effectivement la compétence interne de l'entreprise pour redéfinir des processus spécifiques d'une manière plus performante. L'une des conséquences, c'est un business case qui en général repose sur des réductions d'effectifs. Très vite, les employés ont compris que si ils apportaient les solutions qui permettaient à l'entreprise de les virer, quelque part, ce n'était pas un bon modèle. Et donc, par définition, ils arrêtaient de proposer des solutions de création de valeur. Et on est donc dans un système effectivement totalement vicieux. Alors la conséquence, c'est que alors que la majorité effectivement des entreprises cherchent toujours les perles rares en interne, elles ont de plus en plus de mal à les trouver, elles ont plus de mal à recruter, il y a un départ extraordinaire, et on est nous bien placés pour le savoir dans le conseil des classes d'âge, en particulier 25-35 ans, je suis déjà un peu trop vieux pour partir, et un certain nombre de réactions qui sont très intéressantes, qui sont donc des contrats de partenariat, actionnariat employé, avec des exemples de type SEB en France, Southwest Airlines aux États-Unis, qui essaient de reconstruire une logique de fidélisation qui est favorable à tout le monde et qui passe bien entendu par une participation des salariés à la création de valeur de l'entreprise à travers des systèmes de stock options ou à travers des parts dans l'entreprise. Et tout ça dans l'esprit qui est là aussi extrêmement positif, qui est de dire qu'une entreprise a besoin d'une culture d'équipe, a besoin d'une une culture collective de performance pour réussir. C'est un atout essentiel de compétitivité, d'où la nécessité de retrouver effectivement des modèles qui le permettent. Alors, comment ça se passe dans la nouvelle économie ? La première chose, c'est que la nouvelle économie est très orientée mono-entreprise ou toutes petites entreprises, ce qu'on appelle aux États-Unis small office, home office, donc la capacité de travailler dans un petit bureau ou à domicile, et de faire tout un tas de fonctions, d'activités indépendantes, de sous-traitants, de partenaires, ce qui permet de garantir plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'objectivité. On est moins dépendant effectivement d'un certain modèle de pensée. Donc la pensée unique, ça existe aussi effectivement dans les entreprises. Lorsque la pensée unique, vous êtes le seul à la développer, c'est plus facile à vivre. Alors, bien sûr, il y a des risques en termes de sécurité de l'emploi, mais au moment où ça s'est passé, tout le monde constatait que finalement, être salarié ne donnait aucune garantie en termes de sécurité de l'emploi. Donc autant prendre le risque en étant libre plutôt que de le prendre en étant dépendant. Alors, il y a plein d'exemples marrants. Je crois que c'était un X-Men qui est parti aux États-Unis, qui conçoit des modèles financiers, il vit dans un mobile home et il fait le tour de très grandes entreprises pour leur proposer des modèles d'optimisation financière. C'est à la fois extrêmement sophistiqué sur la technique et extrêmement baba cool sur le mode de vie. Même chose pour un copain vétérinaire, il a été licencié par son employeur, donc il s'est mis comme consultant pour son employeur. Parce qu'effectivement, l'intérêt du consultant, c'est que vous pouvez expliquer à quelqu'un qu'il n'est pas beau, pas performant, etc. Quand vous le faites à l'intérieur de l'entreprise, on a tendance à vous demander de prendre la porte. Donc c'est assez logique finalement, vous faites virer, vous pouvez continuer à faire la même chose et vous êtes en général mieux rémunéré. Donc c'est ce qu'il a effectivement proposé. Vous avez beaucoup de profils comme ça en Allemagne, des sociologues en particulier qui travaillent pour des grandes entreprises et qui jouent ce rôle un petit peu de psychanalyste en position externe. Alors, vous pourriez croire que c'est marginal. Aux États-Unis, ça représentait, la dernière fois que j'ai regardé les chiffres, 35 millions de ménages. C'était il y a 2 ans, donc à mon avis, on peut largement parler de 50 millions aujourd'hui. Donc, ça doit représenter donc 20-25% de la population active. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et c'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable, l'ordinateur, toutes ces choses-là sont extrêmement faciles à faire. Je n'ai pas encore prononcé le mot WAP, donc je vous l'envoie, puisque ça fait partie des mots à la mode. Et alors, tout ça, c'est lié finalement au vrai défi de compétitivité du 21e siècle, qu'on a traduit, donc bien entendu, puisque c'est chez nous en anglais, « Win the war for talent », qui est de dire que finalement, le 21e siècle va se jouer sur la compétition pour le talent et pour ce que nous, on appelle des ressources. Le monde des services est un monde d'offres dans lequel l'individu est lui-même la composante essentielle de cette offre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, la capacité à performer, que ce soit pour une start-up, pour une entreprise de conseil, pour une entreprise informatique, c'est la capacité à recruter les meilleures ressources. Alors bien entendu, tout ça passe par des modèles économiques de type stock options, etc. Mais surtout, parce que de toute façon, à partir du moment où vous êtes sur des modèles type Anelka, vous savez qu'il y a toujours quelqu'un qui peut payer plus. Donc vous allez effectivement la première fois être capable d'acheter quelqu'un, c'est la fidélisation achetée. Donc des modèles de type stock, ces modèles-là, ils ne sont pérennes que pour l'entreprise qui est la plus performante. Et personne n'a garanti qu'effectivement la start-up proposée, elle va être comme Microsoft ou Coke, celle qui va progresser le plus sur les 20 années à venir. Donc il faut proposer quelque chose d'autre. Et c'est là que c'est intéressant, ça se passe beaucoup plus par, je dirais, des propositions de type valeur, de type modèle d'organisation, de type modèle de management, qui sont effectivement intéressantes. Donc, pour conclure, je vais essayer de le faire donc dans un mode consulting classique. Alors, c'est un tout petit peu différent du modèle Sciences Po. Donc, nous, on pose un principe qui est, quelle est la complication à laquelle on essaie de répondre. Donc, la complication, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui à recruter les bonnes compétences sur le marché du travail. Alors bien sûr, le point de départ, le problème étant de gérer la croissance et la performance d'une entreprise à moyen terme. Alors, comment on va essayer de répondre à ça? Et c'est un petit peu la question posée. Quelles sont les solutions qui vont permettre à une entreprise d'être performante, sachant qu'elle repose de plus en plus sur ses équipes de management et sur les gens qu'elle va être capable de recruter? Et là, au-delà donc de la fidélité achetée, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir apparaître des modèles de fidélité construites. On n'est plus simplement sur de l'incentives, on est beaucoup plus sur des logiques managériales, proposer un travail qui est plus intéressant, un environnement qui est plus dynamique, de réelles opportunités. Dans une start-up, vous changez de job pratiquement tous les 6 mois ou tous les mois. L'environnement, le style de vie qui sont beaucoup plus favorables, hein, c'est ce que les Américains ont appelé d'abord les casual Friday, le fait de pouvoir s'habiller de manière décontractée le vendredi, puis le lundi, puis toute la semaine. Il se trouve qu'effectivement, c'est très attractif pour beaucoup de gens aujourd'hui. On a un petit peu de mal à le faire dans beaucoup d'entreprises, et la finance est encore pire que le conseil dans ce domaine-là. Alors, est-ce que tout ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie, ou est-ce que finalement c'est un phénomène qui est réservé à ces quelques start-up? Bon, d'abord, ces quelques start-up, elles ont l'air de croître et de se multiplier, il y en a de plus en plus, elles représentent une part de plus en plus significative de l'environnement économique, donc on ne peut pas simplement les considérer comme une exception. Deuxièmement, elles ont créé un phénomène de contagion. On entend beaucoup parler aujourd'hui de ce qu'on appelle des dot-corps, c'est-à-dire les corporations créent des dot-com internet, donc c'est le cas de Carrefour, c'est le cas de PPA en France, et donc elles essayent de se positionner de manière concurrentielle dans l'environnement internet. C'est ce que mon patron traduisait dans une interview hier en disant finalement les entreprises françaises sont passées au scepticisme actif. C'est le genre de formidable contradiction qu'on aime beaucoup dans l'environnement français. Donc les entreprises dans leur langage sont toujours sceptiques. La nouvelle économie, c'est spéculatif, c'est risqué, etc. Mais aujourd'hui, elles sont quand même actives, elles ont leur propre projet. Hein, c'est un peu le pari de Pascal, on ne sait jamais si ça marche, vaut mieux y être. Et la conséquence de tout ça, qui me rend extrêmement optimiste aujourd'hui, donc j'ai bien évolué en 2 ans, c'est le fait que les relations employeur-employé évoluent de manière extrêmement favorable dans ce type d'environnement. Ça élimine beaucoup les notions de classe, ça élimine l'intermédiation de manière générale, et surtout ça remet au cœur de l'entreprise des valeurs qui pour moi sont extrêmement importantes, de créativité, de prise de risque, de sens de l'initiative, de capacité à gérer des alliances. Et en ce sens-là, il me semble que donc c'est une tendance qui sera extrêmement positive sur le mode de fonctionnement des entreprises, et j'espère donc en convaincre beaucoup de mes clients sur les années à venir. Voilà, merci.
Question ici tout de suite, hein. Première, madame. D'abord madame et ensuite monsieur. Premier.
Oui, bonjour, c'est moi.
Bonjour.
J'ai le sentiment que vous nous avez proposé une problématique de management qui concerne les personnes d'une population au travail qui représentent environ 10%, c'est-à-dire ceux qui ont le meilleur talent. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment, à l'heure actuelle, peut se développer une entreprise dont le projet est de fonctionner avec les 80% de la population active normale qui ont un talent moyen.
Alors... C'est une question effectivement un petit peu difficile. Mais je pense qu'il y a quand même effectivement un certain nombre d'éléments de réponse. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on appelle le meilleur talent, et il faut le regarder par rapport, dans le cas de l'exemple que je donnais, à des classes d'âge ou à des générations qui ne sont pas sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, vous parlez de 10%, c'est donc par rapport à une population moyenne. Non, mais la statistique me va. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on prend donc les nouvelles générations, qu'elles soient diplômées ou non, Le meilleur talent aujourd'hui, c'est 50 ou 60% de ces générations-là, puisque vous avez des tas de jeunes qui ne sont pas nécessairement performants au lycée, mais qui, à travers leur utilisation de la PlayStation ou leur capacité à surfer sur Internet, ont développé des compétences qui sont rares et qui sont extrêmement utiles aux entreprises. Donc la question, elle va se poser effectivement beaucoup plus dans la gestion de ces compétences moyennes dans des environnements qui sont fortement décalé par rapport, je dirais, à cet environnement de nouvelle économie. Et c'est là que, je dirais, la solution, enfin l'orientation qui est intéressante, c'est le phénomène de contagion. C'est-à-dire que, bien entendu, toutes les entreprises de type start-up ou dans des environnements technologiques, etc., ont une avance, ont une chance extraordinaire par rapport à beaucoup d'autres entreprises beaucoup plus traditionnelles. Mais ce qui me semble évident, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises traditionnelles, et en particulier les entreprises de main-d'œuvre, sont amenées à repenser leur modèle de management et à essayer de trouver effectivement des solutions qui soient plus attractives, qui soient plus positives par rapport à leurs employés. Et en particulier pour ces raisons de concurrence. On a une concurrence sur ces ressources qui fait que, y compris dans ces entreprises-là, elles sont menacées. Elles doivent trouver des programmes qui s'adressent à l'ensemble de leurs employés. Alors bien entendu, ils vont en bénéficier avec beaucoup de retard. Il y aura un décalage effectivement dans le temps qui est malheureusement inévitable, mais elles vont aussi être touchées à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, quand on regarde la croissance en France, les secteurs qui sont porteurs, vous avez énormément de secteurs de type service et de type bâtiment qui ne sont absolument pas des secteurs nouvelle économie, mais dans lesquels, là aussi, il y a des évolutions relativement fortes dans la relation du travail, dans le type de modèles qui leur sont proposés pour justement réussir à attirer une population au travail. Mais la question reste pertinente, ça reste effectivement une des difficultés. Toutes les ressources ne sont pas sur un pied d'égalité et ce sera d'autant plus flagrant effectivement dans cet environnement-là.
Oui, bonjour. Ben, en fait, la question que j'avais posée rejoint celle de madame, donc je ne vais pas la reposer, je vais faire juste un peu une remarque. Simplement, effectivement, je trouve que le modèle que vous avez expliqué s'adresse plus à certaines personnes et certaines activités. Et ce qui me gêne un peu dans vos propos, c'est de croire que l'ensemble des secteurs... Parler du travail déjà et parler de la loyauté, je pense que vous n'avez pas tellement évoqué le sujet. C'est-à-dire que vous l'avez abordé sur la fin de votre discours, parce que justement, lorsqu'on évoque la loyauté, on évoque le problème de la morale et du sens même du travail. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté pour les consultants ou les gens qui travaillent ou qui réfléchissent sur le management, de réfléchir sur cette notion de loyauté en termes de morale et en termes de rapport entre les gens, en termes de respect, d'honnêteté intellectuelle à l'égard dans l'entreprise, entre les gens. Et je pense qu'effectivement, il faut nourrir une réflexion de ce côté-là, parce que vous avez vanté les mérites de la nouvelle économie et des nouvelles formes d'activité, d'action. Je ne pense pas qu'elle s'adressera à l'industrie. Lorsque vous parlez du système du modèle américain et que vous vantez les mérites du modèle américain, on dit toujours ça, et maintenant on utilise la nouvelle économie pour faire des Américains encore un modèle, mais s'agissant d'une industrie ou d'autres secteurs en France, on s'aperçoit que la France reste toujours une puissance économique mondiale très forte, et pourtant elle a développé des modèles de relations d'entreprise qui sont totalement différents. Voilà.
Bon, disons que vous me prêtez des attendus et des points de vue qui ne sont pas, je dirais, démontrés dans ce que j'ai pu raconter, et deux, ne me paraissent pas tout à fait en relation avec ce que je pense. Ce n'est pas parce que je travaille dans une entreprise américaine que je considère le modèle américain comme fabuleux. Et l'exemple que je donnais sur les rémunérations montre bien qu'il n'est pas toujours aussi décalé qu'on peut le penser du type de valeur ou du modèle de fonctionnement qu'on peut avoir en France. Par ailleurs, je dirais que pour moi, il ne s'agit pas de mettre en opposition la manière dont le pouvoir et les relations de travail vont évoluer en France par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Simplement de constater que les logiques managériales sont sensiblement différentes, ce qui est finalement là aussi un constat statistique. On a mis plus de temps à avoir nos propres vagues de start-up, on a mis plus de temps à répondre à un certain nombre de ces phénomènes. Et c'est, à mon avis, un petit peu lié à notre culture, à un certain nombre de réflexes de management qu'on peut avoir, à cette peur entrepreneuriale. Est-ce que ça veut dire que la valeur, la morale dans les entreprises en France est quelque chose que je réprouve? Absolument pas. Alors, les deux questions reviennent au même point, qui est: est-ce que ce discours est pertinent par rapport à 90% des entreprises? Aujourd'hui, je travaille sur deux types d'entreprises. des startups d'un côté, des très grands groupes de l'autre. Donc qui représentent effectivement une part limitée, je dirais, du réseau industriel, puisqu'effectivement une grande part du réseau de travail est ailleurs, soit dans les administrations, soit dans les PME, soit dans, je dirais, un autre type d'entreprise. Donc de ce fait, c'est vrai que le point de vue, il est partiel et il ne tient pas compte de tous ces éléments. Ce que je constate quand même, c'est que toutes les personnes en position de dirigeant se remettent en question d'une manière ou d'une autre, à cause effectivement des valeurs de travail un petit peu différentes qu'on peut trouver dans l'environnement d'innovation économique. Et c'est ça que je trouve plutôt sain et plutôt positif. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de, enfin c'est pas un discours ni alarmiste ni angoissé. Je trouve que personnellement, les modèles de management start-up, je les trouve très attractifs. Et à mon avis, pour beaucoup de gens effectivement qui vont sur le marché du travail, c'est des modèles très attractifs, y compris sur des fonctions très classiques et très standards d'assistantes, d'opérateurs industriels ou technologiques. Et que de ce fait, ils vont avoir un impact sur toutes les entreprises qui sera positif justement en termes de valeur, de mode de fonctionnement. Donc moi, j'y voyais plutôt quelque chose de positif. Je suis désolé que vous l'ayez perçu de la manière opposée.
Là-haut, monsieur.
Bonjour. Ma question porte sur la distance hiérarchique et l'évitement de l'incertitude dont vous avez parlé.
Ouais.
Est-ce que vous avez une opinion personnelle ou peut-être les causes sous-jacentes à ce diagnostic bon, cette situation est fréquente en France. Pourquoi si fréquemment les conflits sont évités? Pourquoi c'est difficile de résoudre un désaccord sans dérapage irrationnel, plus en France qu'en Hollande, par exemple? Est-ce que vous avez des idées plus personnelles là-dessus?
Alors, les concepteurs du modèle ont essayé effectivement de l'interpréter. Il y a des réponses qui sont précises. Lorsque je parlais du Japon, île volcanique, c'est une réponse effective et concrète. L'histoire de France passe quand même par un modèle extrêmement centralisé, par des figures dans l'histoire dont on est extrêmement fier qui sont sur ce type de modèle, de type Napoléon. La révolution comme mode de changement, c'est un petit peu quelque chose là aussi de constater de manière historique. Pour ce qui est de la différence entre la France et la Hollande, il y a une autre dimension qui joue un rôle très important, qui est la masculinité. La Hollande, comme les pays scandinaves, est une culture qui est entre guillemets très féminine. C'est-à-dire que la dimension de la masculinité est beaucoup moins présente en Hollande et en Suède qu'elle ne l'est en France ou dans les pays latins. Et là aussi, ça joue, c'est-à-dire que la combinaison d'une faible masculinité avec cet élément, je dirais, de low power distance amène un comportement qui est très différent. Alors les anecdotes sont nombreuses, c'est peut-être lié au vélo, puisque le Premier ministre hollandais circule à vélo à Amsterdam, ça fait partie de symboles qui sont effectivement très, très différents, puisque je ne crois pas que ce soit très fréquent dans les pays latins d'avoir ce type de comportement. Donc il y a véritablement une proximité reconnue, acceptée, qui, je pense, passe un petit peu par ces caractéristiques individuelles. Alors, l'étude est extrêmement fouillée. Là, j'en ai fait un extrait qui est malheureusement un peu réducteur, puisqu'il a fallu interviewer des tas de gens dans tout un tas de pays. Et donc, l'interprétation est relativement lourde et assez compliquée. Il y a un très bon cours de formation de l'ITIM qui présente ça dans le détail, si vous êtes intéressé.
On va prendre encore 3 questions. Donc, monsieur. Allez-y. Oui.
J'aurais voulu ici.
Pardon.
J'aurais voulu connaître votre opinion sur le fait qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a un peu trop tendance, les médias et tout le monde, à opposer les modèles de l'ancienne économie et de la nouvelle économie, alors que finalement, le modèle idéal, qu'on soit en nouvelle économie ou ancienne économie, est peut-être un point qui est au milieu des deux. Et pour citer quelques exemples pour supporter mon propos, vous aviez cité l'exemple d'un énarque patron d'une grande banque française qui a eu comme assédic le droit de retourner à la Cour des comptes après avoir mis en faillite la banque. Sur les modèles de la nouvelle économie, on peut tous les jours voir des CEO qui font passer le cours de l'action de 125 dollars à 38 dollars, partir avec des golden parachutes de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc c'est pas la Cour des comptes, mais au global, ils s'y retrouvent. Vous avez cité le cas d'Apple. Je pense que le retour de Steve Jobs et la remontée d'Apple a été en grande partie due à des bonnes vieilles recettes de la vieille économie, à savoir couper des têtes et changer les personnes. Et enfin, sur les caractéristiques de management entre des modèles pyramidales et des modèles cellulaires, je trouve que les modèles de la nouvelle économie focalisent beaucoup sur... Alors, il n'y a pas de pyramide, donc je ne sais pas trop trouver le terme, mais en fait, les CEO, en particulier des start-up et de toutes les sociétés de la nouvelle économie, sont hyper médiatisés. Et donc là, on retrouve également des parallèles avec la bonne vieille économie. Et enfin, le dernier propos, c'est aujourd'hui, justement, dans la course au talent, pour fidéliser les employés, on regarde, par exemple, ce qui se passe dans beaucoup de start-up américaines, et ils se mettent à faire beaucoup de social, jusqu'à aller intégrer des jardins d'enfants dans les boîtes, pour justement fidéliser les employés. Alors que ce sont des choses... Enfin, c'est un cap qu'on n'a jamais franchi dans l'ancienne économie. Excusez-moi d'avoir été un peu trop long.
Non, je crois que par vocation, j'ai aucun intérêt à opposer l'ancienne et la nouvelle économie, puisque le rôle d'un consultant, c'est de faire de la transversalité et donc d'apporter à l'ancienne ce que la nouvelle fait mieux et inversement. Donc on est complètement dans cette logique-là. Et je ne pense pas que la nouvelle économie apporte des valeurs morales supérieures à des individus qui n'en ont pas. C'est totalement, ça n'a absolument rien à voir avec un modèle de management. Je pense que les deux patrons de Boo.com qui s'en sont mis plein les poches sans rien faire de professionnel ne méritent pas plus de respect que des patrons anciennes économies qui sont peu performants. Donc je ne suis pas du tout en train de monter au pinacle ce type de profil. Et en plus, ce n'est pas du tout ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le mode de fonctionnement en termes effectivement de relations interpersonnelles, en termes de relations de pouvoir, qui est mis en évidence, qui est mis en avant par ce type d'entreprise, qui existait déjà dans l'ancienne économie sur un certain nombre d'entreprises. Le modèle SEB a été développé bien avant qu'on parle d'Internet. Vous avez eu des modèles communautaires dans les années 70 ou dans les années 60 dans beaucoup d'entreprises. Donc je dirais, il n'y a pas une invention d'un mode de management différent. Il y a simplement une certaine cohérence entre les modèles qui sont proposés, la culture, je dirais, d'une certaine génération et classe d'âge qui arrive à ce moment-là et qui fonctionne de manière finalement assez confortable et assez à l'aise dans ce type de dialogue. Mais la gestion d'entreprise, elle est performante sur des bases qui restent extrêmement rationnelles. Vous avez raison, il fallait une certaine rigueur pour redresser Apple, et ça n'a rien à voir ni avec la poésie, ni avec les pantalons fluo. Je pense que le point est simplement de dire l'un des éléments d'attractivité de ces entreprises, c'est justement l'environnement managérial qu'elles proposent, qui n'a rien à voir avec l'efficacité, mais qui a des conséquences qui sont une concurrence très forte sur le marché de l'emploi et donc, je dirais, un certain effet de contagion. Si elles se cassent tous la figure, de toute façon, il faudra bien retrouver un job dans l'ancienne économie, y compris pour moi. Donc le problème n'est pas du tout... je ne le regarde pas d'un point de vue performance relative de l'une ou de l'autre, mais beaucoup plus attractivité de ces modèles et comment ils sont perçus par des candidats ou, je dirais, par la population active aujourd'hui.
Avant-dernière question.
Vous avez évoqué, pour terminer, des valeurs humaines, la créativité, la prise de risque, la rapidité, etc., qu'on ne peut pas nier, mais qui sont plus des valeurs de jeunesse. Par contre, il y a d'autres valeurs, bien sûr, la sagesse, la prudence, etc., qui sont des valeurs, en principe, de sujets âgés. Et étant donné que la population, d'après les études démographiques, va vers un vieillissement de la population, on se demande comment tout ça va s'équilibrer, sauf si la trépidation inhérente à la jeunesse risque que les Américains meurent très rapidement. D'autre part, est-ce qu'il faut viser plutôt le court terme et le long terme? Bien souvent, l'efficacité d'une start-up peut être jugée sur le court terme, alors que sur le long terme, c'est plus difficile.
Alors, le jeunisme est un énorme défaut de tous les discours autour de la nouvelle économie, donc je ne peux que souscrire à ce que vous avez pu dire. Je présente ou je parle d'un certain nombre de valeurs en écart par rapport à une situation donnée. Lorsque les entrepreneurs du début du siècle étaient tout à fait capables de mêler à la fois ces notions de créativité, de prise de risque et progressivement compétences technologiques, expérience, etc., etc. Donc il n'y a rien de nouveau. La performance entrepreneuriale, elle nécessite une combinaison entre innovation et savoir, entre prise de risque et rigueur. Simplement, ce qu'on constate à travers l'irruption des start-up aujourd'hui, c'est que beaucoup de grandes entreprises ont perdu la capacité à mettre en avant ces valeurs. Moi, j'entends énormément de discours de DRH, disons, on cherche des entrepreneurs. Et c'est pour ça que je faisais effectivement l'allusion au MEDEF. Je trouve que le terme est superbe. C'est effectivement une très bonne chose de chercher des entrepreneurs. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas crédibles pour recruter des entrepreneurs? Si vous cherchez des entrepreneurs pour leur demander de faire un job dans lequel il n'y a rien d'entrepreneurial, c'est normal que les gens ne soient pas satisfaits. Donc le point, il est là. Aujourd'hui, moi, j'ai véritablement l'impression que des jeunes diplômés qui vont dans des entreprises extrêmement prestigieuses trouvent que ce qu'on leur offre n'est pas suffisamment innovant, que leurs degrés de liberté sont relativement limités, que leur capacité de remettre en cause, de changer un peu les règles du jeu, etc., est extrêmement bridée. Et c'est très souvent la raison pour laquelle ils vont ailleurs. Alors, nous, on en souffre de manière énorme. Donc, ce n'est pas du tout une sorte de critique des autres. C'est une remise en cause qu'on est obligé de se faire tous les jours. Nous, on est passé instantanément en 3 mois de 10% de taux d'attrition à 20% de taux d'attrition. On n'est pas devenu en 3 mois une entreprise qui est 2 fois moins sympathique par rapport à ses salariés qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. N'empêche que ça a révélé tout un tas d'attentes de ces populations-là sur lesquelles on était relativement peu performants et il faut absolument qu'on y travaille, qu'on propose des solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie sont touchés par ça. Il n'empêche qu'effectivement, à un moment donné, dans certains secteurs, sur certains types de compétences et en management en particulier, le savoir, l'ancienneté, l'expérience sont très importants. Les start-up qui marchent bien font venir des dirigeants qui ont une expérience de management et qui ne sont pas des jeunes gamins qui en général sont issus de grandes entreprises, ont un vrai passé de management, etc. Donc c'est la combinaison des deux qui est importante. Mon point, c'est de dire que ce qui avait été le plus oublié aujourd'hui, c'était plutôt le côté entrepreneurial que le côté savoir-expérience.
Bon, dernière question, oui. Monsieur.
Bonjour, monsieur. Merci de nous avoir clairement signifié que le profil de carrière n'avait jamais fait un Premier ministre. Merci pour nous. Ma question, j'en ai deux. Est-ce qu'il est possible d'envisager, s'il vous plaît, de démocratiser l'accession aux stock options? Et ma deuxième question, je voulais la poser hier, mais je la pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a... En fait, je voulais savoir s'il y avait une pharmacie dans votre groupe.
Une pharmacie?
Oui, oui. Je suis secouriste.
Je réponds à la plus facile, oui, il y a une pharmacie. Ouais. Alors, démocratisation des stock options, je pense que c'est l'une des conséquences inévitables de ce qui se passe. Je sais que nous, on est en train de concevoir un modèle justement de distribution de ce qu'on appelle des e-units, puisqu'on est une entreprise privée, donc on ne distribue pas des stocks. Et l'idée, effectivement, est d'être dans une distribution qui touche absolument tout le monde. Avec deux critères, un critère de fidélisation, donc effectivement tout le monde reçoit des stocks, et un critère de performance, puisque le modèle est axé sur la capacité effectivement à récompenser la performance, qui là sont distribués de manière sélective. Je suis convaincu que la majorité des entreprises doivent concevoir un modèle d'incentive qui soit beaucoup plus large que les systèmes actuels. Il y a quelques entreprises qui distribuent d'ailleurs des stocks de manière extrêmement large, et à mon avis, c'est une tendance qui va nécessairement se renforcer.